Chapitre 10. Août 2018. Sophie et Sean arrivent chez Kerri-Anne à 20h avec une bouteille de vin fraîche. La baie vitrée du salon offre une vision imprenable sur le soleil couchant. Il fait chaud. L'air est lourd. Un énorme ventilateur chromé leur évite de suffoquer tout à fait. « Je suis désolée », s'excuse Kerri-Anne. « La température est vraiment étouffante dans l'appartement l'été. Suivez-moi, on va s'installer dehors. » Sur la terrasse se trouve un canapé en rotin et une table avec des bols de chips, des verres à pied et une bougie. Sophie s'assied d'abord, imitée par Sean. Le panorama est splendide. Les bois, le ciel turquoise traversé de traînées roses pâles, et un croissant de lune émerge de l'ombre. C'est si beau. Par rapport à notre maison, c'est un autre monde. Oui, le cottage est mignon, mais il n'y a pas la vue. Cela dit, vous souffrirez moins de la chaleur. Elle serre le vin et lève son verre vers Sean. Santé, à mon 5e proviseur. Et à vous, Sophie, ma première conjointe de proviseur. Nous sommes le premier couple non marié ? Demande Sophie. Tout à fait. Et c'est mal vu ? Non, pas du tout. Il y a 20 ans, peut-être que ça aurait fait jaser, mais plus aujourd'hui. Plus personne ne s'offusque de ce genre de choses. Et d'ailleurs, Jacinta Croft, qui vous a précédé, Sean, est arrivée mariée mais repartie célibataire. Son mari a disparu du jour au lendemain. Encore une de ces histoires de « je vais acheter des clopes, je reviens tout de suite ». Personne n'a jamais compris. Et c'est pour ça qu'elle est partie, finalement. À cause du scandale. Mais non, votre couple ne devrait pas susciter trop de commérages. Rassurez-vous. Ils discutent un moment de la première journée de Sean, du lycée où il enseignait à Lewisham, des différences entre les deux établissements, des élèves. Puis, Kerri-Anne se tourne vers Sophie. « Peter Doody m'a dit que vous étiez romancière, que vous écriviez des polars. »« C'est vrai, » répond Sophie avec un sourire. « Je serais surprise que vous les ayez lus. Les ventes sont assez confidentielles ici, mais j'ai beaucoup de succès en Scandinavie. » Elle ponctue son commentaire du rire gêné auquel elle a recours quand elle doit expliquer aux gens pourquoi ils ne la connaissent pas. « Je l'ai dit à ma fille, c'est elle la lectrice de la famille. Moi, non. Je crois qu'elle a commandé un des titres de la série. Comment ça s'appelle déjà ?»« Les détectives de Heather Green. Mon nom de plume est P.G. Fox. » »« Si vous êtes en panne d'inspiration, je peux vous raconter des anecdotes croustillantes sur Maple House. Des événements terrifiants se sont produits ici, à vous donner des cauchemars. Rien que l'année dernière, la police est venue 2 fois pour rechercher des personnes disparues dans les environs. » Sophie pense à la grande demeure abandonnée dans les bois. « Vraiment ? Que s'est-il passé ?» Kerri-Anne jette un coup d'œil à Sean. « Tout bien réfléchi, je crois que je vais garder ça pour moi. » Se reprend l'intendante en lançant un regard en coin à Sophie, qui devine que ce silence n'est pas fait pour durer. Le lendemain, Sophie et Sean se réveillent à 6h. Ils prennent le petit déjeuner ensemble dans le jardin, éclairés par les premiers rayons de soleil d'un nouveau jour qui traverse la muraille des arbres jusqu'à leur table. « Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui ?» lui demande Sean en empilant les assiettes et les couverts. « Une nouvelle promenade en forêt ?»« Non, je ne pense pas. Je vais plutôt partir explorer le village. Peut-être déjeuner au pub, le fameux Swan and Ducks. J'essaierai de t'y rejoindre. Bonne idée. » Une fois Sean parti, Sophie entreprend de trier quelques cartons. Elle se verse un café et s'installe dans la cuisine avec son ordinateur pour répondre à ses mails. Elle se rend au Danemark dans quelques jours pour un festival consacré aux romans policiers. Et il y a eu quelques ajouts à son programme, notamment une interview télévisée. En conséquence, elle doit absolument aller chez le coiffeur. Elle prévoit de faire une excursion à Londres, prendre rendez-vous dans son salon habituel, déjeuner avec une amie, peut-être passer voir son éditeur. Cette perspective la réjouit. Après quelques minutes, elle ouvre son dernier manuscrit. Cela fait des jours qu'elle n'y a pas travaillé. Ces derniers temps, sa vie n'était plus que carton à faire et défaire, soirée d'adieu et peau de bienvenue. Elle n'avait pas eu la disponibilité d'esprit nécessaire pour se replonger dans son roman. Mais aujourd'hui, elle n'a plus d'excuses. La dernière phrase qu'elle a écrite résonne dans le vide. Ce sont des mots qu'elle a rédigés dans l'Ancien Monde, quand elle était encore londonienne, qu'elle sortait avec un enseignant d'un immense lycée de Lewisham, que le déménagement à la campagne n'était qu'une date lointaine dans son calendrier et non une réalité. Elle la scrute un bon moment, puis remonte au début du chapitre pour essayer de se remettre dans la tête de la Sophie de Londres. En vain. Finalement, elle démarre son navigateur et tape « Maple House » et « Disparition ». Elle sélectionne l'onglet « Actualité » et clique sur le premier résultat. Un couple de jeunes parents disparaît. Kim Knox, 39 ans, résident à Upfield Common, a déclaré la disparition de sa fille, Tallulah Murray, 19 ans, et de son compagnon Zach Allister, 19 ans également, qui n'ont pas été vus depuis la nuit de vendredi à samedi. Murray et Allister ont un fils âgé d'un an. Ils ont passé la soirée au Swan and Ducks avant de se rendre dans une maison près de Upley Fold où avait lieu une fête avec des anciens élèves de Maple House. Selon les jeunes présents à la fête, ils sont partis vers 3 heures du matin avec l'intention d'appeler un taxi et ne sont jamais rentrés chez eux. Si vous avez des informations permettant de les retrouver, merci de contacter le commissariat de Menton le plus rapidement possible. Un frisson parcourt l'échine de Sophie. Elle revient à la page précédente et lit les autres articles en espérant découvrir des renseignements plus récents, mais il n'y en a pas. Les autres résultats sont des reprises du premier article du journal local. Puis elle tape Kim Knox et Upfield Common, et quelques nouvelles pages apparaissent, notamment deux liens vers la lettre d'information du village, la Gazette d'Upfield. L'un des textes parle d'une veillée qui a eu lieu en juin pour marquer l'anniversaire de la disparition de Zach et Tallulah. Sur la photo qui illustre l'article, on voit une belle femme aux cheveux sombres, vêtue d'une robe longue à fleurs et de bottes militaires noires, qui serre la main d'un petit garçon aux cheveux bruns avec une rose dans sa main libre. Un adolescent en chemise noire et pantalon cargo, qui ressemble beaucoup à cette femme, se tient à côté d'elle. Derrière eux, une marée de visages, très jeunes pour la plupart. Kim Knox, 40 ans, d'Upfield Common, a organisé une marche blanche dans le village samedi soir pour commémorer la disparition de sa fille, Tallulah Murray, qui aurait eu 20 ans en mars. Cette veillée rendait également hommage à Zach Allister, le compagnon de Tallulah et père de son fils, qui aurait aussi eu 20 ans. La marche a débuté sur la place centrale et s'est achevée à l'église St. Bride's, où la chorale du lycée Upfield High, où les deux jeunes gens étaient scolarisés jusqu'en 2016, a entonné des chants d'espoir lors d'une émouvante cérémonie de commémoration. Tallulah étudiait au lycée professionnel de Menton et voulait devenir assistante sociale au moment de sa disparition, en juin 2017, après une soirée entre amis. L'autre lien l'amène vers un article antérieur de 3 mois, relatant une cérémonie où l'on avait planté un rosier le jour de l'anniversaire des 20 ans de Tallulah, en mars. Ce rosier, originaire d'Australie et qui porte le nom de Tallulah, a été planté derrière l'arrêt de bus de la place principale, là où Kim Knox observait souvent sa fille pendant qu'elle attendait le bus pour aller en cours. Sophie se détourne de l'écran, submergée par une puissante vague d'émotion, en pensant à cette mère qui soulève son rideau et hasarde un regard de l'autre côté de la rue, dans l'espoir d'apercevoir l'ombre de sa fille disparue. Cette mère qui doit se rendre à l'évidence tous les jours. Il n'y a que des roses.